Durant la première séance, nous avons réfléchi sur cette confession de foi, Dieu est amour. Pour ce second enseignement, nous allons parler de la liberté. Dans un premier temps, nous nous demanderons ce qu'est la liberté. Puis nous verrons que la liberté est inséparable de la vérité. Enfin, nous parlerons du discernement avec l'esprit. Premier point, la liberté chrétienne. Commençons par définir la liberté dans son acception commune, dans son sens commun. Je cite la Congrégation pour la doctrine de la foi dans son instruction sur la liberté au chapitre 25. La réponse spontanée à la question « Qu'est-ce qu'être libre ?» est la suivante. Est libre celui qui peut faire uniquement ce qu'il veut sans être empêché par une contrainte extérieure, qui jouit par conséquent d'une pleine indépendance. Le contraire de la liberté serait ainsi la dépendance de notre volonté à l'égard d'une volonté étrangère. La liberté se définit donc dans un sens commun, négativement comme l'absence de contraintes, et positivement comme l'état de celui qui fait ce qu'il veut. Le courant de mai 68 prônait une liberté sans contrainte à travers ce slogan « Il est interdit d'interdire ». Mais la vie nous montre que faire ce que l'on veut en l'absence de contraintes ne conduit pas forcément au bonheur. Ainsi, dans le cadre d'une union conjugale, je dispose du libre arbitre pour rester fidèle à mon engagement ou pour tromper mon conjoint. Mais serons-nous vraiment libres une fois l'adultère commis ? Ne serons-nous pas enchaînés au mensonge et à la fuite en avant au risque de tout perdre et donc de provoquer la mort du couple? Dans la Bible, nous voyons que Dieu nous place dès l'origine en position de libre arbitre. Nous sommes tous des Adam et des Ève en face de nos responsabilités. Dans le texte de la Genèse, Dieu se contente de mettre une pancarte. Attention, danger de mort. Adam et Ève disposent de la capacité d'arbitrer les mots divins et de prendre une décision. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Et un choix conduit à la vie et à la liberté. Un autre choix conduit à la mort et à la prison. Je cite le Deutéronome, chapitre 30, versets 19 et 20. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer le Seigneur. Reprenons l'instruction sur la liberté. Chapitre 26. La liberté n'est pas liberté de faire n'importe quoi. Elle est liberté pour le bien, en qui seul réside le bonheur. Le bien est ainsi son but. En conséquence, l'homme devient libre lorsqu'il accède à la connaissance de la vérité et que celle-ci guide sa volonté. Deuxième point, liberté et vérité. Liberté et vérité sont indissociables. Et Jésus nous dit, la vérité vous rendra libre. Jean 8, 32. Ces propos nous renvoient à la question de Pilate à Jésus. Qu'est-ce que la vérité ? Jean 18, 38. Jésus ne lui répond pas directement, mais il nous laisse un témoignage à travers sa parole. Je cite Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous touchons ici du doigt la nouveauté unique de la révélation chrétienne. Le chemin de la vérité doit désormais se chercher dans la personne même de Jésus, nous dit un jésuite Ignace de la Poterie. Thomas d'Aquin, un grand théologien, commente les paroles de Jésus en ces termes. Adhère donc au Christ si tu veux être en sûreté. En effet, tu ne pourras pas dévier, parce qu'il est lui-même le chemin. Il vaut mieux, en effet, boiter sur le chemin qu'avancer fermement en dehors du chemin. C'est donc à la suite du Christ que nous sommes appelés à connaître la vérité et à vivre dans la liberté. Jésus nous appelle à la liberté à travers un « suis-moi ». Il ne prononce pas de grands discours éthiques ou philosophiques sur la liberté, mais distille quelques enseignements. Par exemple, face au jeune homme riche. Cet homme respecte à la lettre la loi. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas l'adultère. Et Jésus trouve cela formidable. Je cite Marc 10, 21-22. Alors Jésus fixa sur lui son regard et l'aima. Et il lui dit, « Une seule chose te manque, va. Ce que tu as, vends-le et donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, s'assombrit et il s'en alla contristé car il avait de grands biens. Ce qui est en cause ici, ce n'est pas la richesse en tant que telle, mais l'enfermement du jeune homme sur lui-même, sur l'observation scrupuleuse de la loi et sur sa richesse. Ce jeune homme avait l'âme d'un pharisien qui respectait scrupuleusement les 613 préceptes de la loi mosaïque. Ce qu'il a manqué au jeune homme riche, ce n'est pas une vertu supplémentaire, ce n'est pas une qualité nouvelle à acquérir pour sa propre perfection. C'est simplement d'avoir les yeux ouverts sur quelqu'un d'autre que lui. Ce jeune homme était possédé par sa richesse. Il était prisonnier. Il n'était pas libre. Jésus nous invite à mettre notre ambition dans une pauvreté de cœur. En chacun de nous est vive la volonté d'être libre, libre de penser, libre d'agir. Mais nous n'empruntons pas toujours les chemins qui mènent à la liberté parce que nous ne cherchons pas toujours la vérité, parce que nous ne suivons pas toujours le Christ. Nos choix nous conduisent parfois à l'esclavage et à la prison. Nous pouvons être prisonniers de nos richesses, de nos addictions, et même de nos blessures. Nous pouvons aussi être englués dans le péché. Parfois nous disons « je n'arrive pas à m'en sortir » pour exprimer notre enfermement. Alors c'est vrai, certains avancent à pas de géant sur le chemin de la vérité et de la liberté, alors que d'autres trébuchent et tombent. Mais Jésus nous tend la main et rejoint chacun de nous là où il est sur son chemin pour le guider vers la vérité. Le récit des disciples d'Emmaüs est particulièrement évocateur de cette conversion à la vérité. C'est en Luc, chapitre 24, 13-35. Deux disciples quittent Jérusalem tristes suite à la mort de Jésus. Ils attendaient un Messie guerrier. Ils sont prisonniers de leur attente, sans doute légitime. Mais ils sont dans l'erreur en ce qui concerne Jésus. Jésus les rejoint sur le chemin d'Emmaüs. Il les rejoint dans leur tristesse et leur désespoir. Il leur explique les Écritures. Les yeux des disciples commencent à s'ouvrir. Arrivé à un carrefour, Jésus fait mine d'aller plus loin. Et c'est au carrefour de nos vies que se joue notre libre arbitre. Les disciples ont le choix d'inviter ou de ne pas inviter Jésus. Ils l'invitent. Vous connaissez la suite. Jésus rompt le pain et les yeux des disciples s'ouvrent totalement. Ils accèdent à la connaissance de la vérité. Ils sortent de leur enfermement et accèdent à la liberté, liberté qui les pousse à retourner à Jérusalem pour annoncer la bonne nouvelle de la résurrection. Ce récit montre toute l'importance de l'écoute. Les choix nous conduisent à la vérité et à la liberté lorsqu'ils sont éclairés. D'où l'importance du discernement avec l'esprit, et c'est mon troisième point. Troisième point, discerner avec l'esprit. Être libre, c'est choisir le bien pour la vie. C'est orienter nos décisions vers le bonheur de soi-même et celui des autres. C'est choisir la voie qui nous préservera de la prison. La liberté est donc exigeante et réclame un discernement intérieur face aux multiples sollicitations de la vie. Et la liberté se conquiert avec prudence. Comment un loup pourrait-il rester sage dans un poulailler? Mieux vaut ne pas entrer dans le poulailler. Tous les panneaux d'interdiction n'y changeront rien si nous n'apprenons pas à lire ou si nous fermons notre regard. Le prudent est celui qui prend le temps du recul, de la réflexion et du discernement. Le prudent est celui qui ne se laisse pas gouverner uniquement par ses émotions et ses désirs parfois impétueux, mais cherche à évaluer le mieux possible les conséquences de son action. La prudence est cette vertu qui consiste à discerner où se trouve notre vrai bien en toute chose, en toute circonstance, et à choisir les moyens les plus justes pour le mettre en œuvre. Dieu ne choisit pas notre place, mais il ne nous laisse pas totalement orphelins de nos décisions. Il nous donne son esprit. Vous connaissez les dons de l'esprit. Sagesse, force, intelligence, conseil, science, crainte et piété. En d'autres termes, l'esprit inspire ou éclaire notre conscience pour nous guider sur le chemin de la vérité qui conduit à la liberté. La conscience est le lieu de la rencontre avec Dieu dans les décisions à prendre. Elle agit comme une voix intérieure qui exerce sur nous une autorité ou un conseil. Je voudrais ici citer un extrait du Concile Vatican II, Gaudium et Spes, au chapitre 16. Au fond de sa conscience, l'homme découvre la présence d'une loi qu'il ne s'est pas donnée lui-même, mais à laquelle il est tenu d'obéir. Cette voix qui ne cesse de le presser d'aimer et d'accomplir le bien et d'éviter le mal. Au moment opportun, cette voix résonne dans l'intimité de son cœur. Fais ceci, évite cela. Car c'est une loi inscrite par Dieu au cœur de l'homme. Sa dignité, c'est de lui obéir et c'est elle qui le jugera. La conscience est le centre le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. Pour entendre cette voix, nous devons retrouver notre intériorité. Nous devons faire silence. Ce temps de retraite est l'occasion de faire un peu de silence dans nos vies pour entendre la voix de l'esprit. En conclusion, la liberté est bien plus qu'une simple émotion intérieure. C'est un état à conquérir sur le chemin de la vérité. Et la vérité chrétienne est ce vers quoi nous marchons lorsque nous nous laissons conduire par l'esprit. Je cite Jean 16, 13. Quand il viendra, lui, l'esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité toute entière. Alors nous serons vraiment libres. Je vous remercie pour votre attention.